d'emploi. Mode d'emploi.
Bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel, nous sommes ensemble pour une heure d'émission. L'émission c'est Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Aujourd'hui l'émission est animée par une équipe composée des militants altermondialistes, membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf. Nous sommes ici rassemblés dans le studio avec Magali, Marie, Gaël, Pierre et moi-même.
Et Ludo et Jean-Yves à la technique. Et nous recevons tout à l'heure par téléphone Jean-François de la coopérative alimentaire La Louve qui viendra nous parler de l'actualité de cet emplacement dans le 19e qui va changer la vie de tous les Parisiens. Et pour commencer sur l'actualité, ben aujourd'hui c'est l'euro. Alors Alex va nous expliquer comment on fait de l'euro, des euros avec l'euro.
Voilà, alors ouais, ça va être un petit peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la rubrique les pages chaumont du PIAF. Donc on s'intéresse au fric et donc à l'euro, aux euros. Et au moment où doivent être en train de retentir les hymnes à Saint-Denis qui marquent le début de cette grande rencontre internationale qui est l'Euro UEFA 2016. Je précise, UEFA, c'est important. Et qu'il va y avoir un merveilleux France-Roumanie qui va commencer là. J'aimerais parler un petit peu, déjà pour commencer, du rapport des footballeurs, et pas n'importe quel footballeur, avec la politique en général, et en particulier les questions d'argent. Et donc, évidemment, je fais référence à une célèbre interview qui est parue dans Le Monde le 7 juin, où Zlatan a dit que... Poser la question, quel genre de président est François Hollande ? J'aide ce pays plus qu'il ne l'aide.
C'est qui Zlatan ?
Mais Zlatan Ibrahimovic, la star parisienne.
Ah.
Le footballeur qui a marqué 35 buts cette saison, je crois, il me semble. Et alors du coup, bah, la vraie question, c'est quoi les idées de Zlatan ? Qu'est-ce qu'il va nous apporter ? Alors, c'est pas évident en fait quand on lit l'interview de comprendre quelles sont les idées politiques de Zlatan, mais en gros... Pour faire simple, il n'aime pas Hollande, parce que Hollande, il a fait la taxe à 75%. Et alors, c'est pas bien. Alors, il y a quand même quelques détails qui clochent. C'est que la taxe à 75%, elle a disparu depuis le 1er février 2015. Mais c'est pas grave, parce que pour Zlatan, qui explique dans l'interview qu'il déclare lui-même ses impôts, elle est toujours là et il la paye. Et d'après les infos qu'on a eues au moment de son transfert à Paris, donc ça date un petit peu, mais ça doit être encore vrai, en fait, le salaire qu'il reçoit du club, c'est un salaire net d'impôts. C'est-à-dire que le club se débrouille pour lui donner du net et payer tous les impôts qu'il devrait payer. Bon, mais il dit qu'il paye ses impôts. Et puis, il faudrait quand même rajouter un petit détail qui a son importance, c'est qu'en général, pour un footballeur de ce calibre, les plus gros revenus, ils viennent même pas de son salaire au club, ils viennent de l'utilisation de son image. C'est-à-dire des ressources qui viennent de la pub, des marques. Donc on a un salaire officiel qui est de 20 milliards d'euros. En gros, en net, ça doit faire du 5-6 milliards. Et avec les droits à l'image, millions. On va y venir en milliards, c'est après. Donc 20 millions d'euros par an et qui doivent être en net 5-6 millions d'euros par an. Et si on rajoute les droits à l'image et les revenus de la pub et du sponsoring, ça doit être à peu près le double. Mais il nous rassure, il nous explique que finalement tout ça, c'est pas beaucoup, parce que il le mérite. Et ça, il faut prendre la citation dans son entier. C'est le marché qui décide des prix. Là, en fait, c'est Zlatan qui parle, c'est pas moi. C'est le marché qui décide des prix et non la passion ou les médias. Et si c'est beaucoup, ce n'est pas mon problème. Mon souci, c'est de voir ce que dit le marché. Voici ce que dit le marché. Si un autre joueur gagne autant, et que moi, je suis 10 fois meilleur que lui, combien ça fait 10 fois plus?
Il a lu Jean Tirole, en fait.
Voilà. Alors, le problème, c'est quand même, il a lu Jean Tirole, mais il n'a rien compris à Jean Tirole. Et globalement, il n'a rien compris au marché. Alors, c'est une citation qui est géniale, parce que, grosso modo, tout est faux dans ce qu'il dit, mais il faut comprendre pourquoi. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'un marché qui est quand même très particulier, le marché des footballeurs professionnels de haut niveau. Et un marché qui a une réglementation un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on peut mettre 11 joueurs sur le terrain, pas 12. Et évidemment, ça permet d'organiser la rareté. C'est ça qui explique que les footballeurs de très haut niveau sont particulièrement bien payés. Voilà. Et après, si on prend sa formule, qui est géniale, je gagne 10 fois plus parce que je suis 10 fois meilleur, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que comme effectivement tous les clubs vont rechercher les meilleurs footballeurs, et effectivement Zlatan fait partie des meilleurs footballeurs, ils vont le payer 10 fois plus, mais pas parce qu'il est 10 fois plus fort, juste parce qu'il est un peu plus fort. Et qu'il y a une telle concurrence entre les meilleurs clubs pour avoir les meilleurs joueurs, qu'ils vont payer beaucoup plus, c'est exponentiel, ce qu'ils vont être prêts à payer pour avoir des joueurs juste un peu meilleurs que les autres, pour pouvoir gagner les matchs. Voilà. Mais là, c'est encore que la surface émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il faut voir tout le reste. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les clubs peuvent se permettre de payer aussi cher des joueurs comme Zlatan, quel que soit son talent par ailleurs, qui est assez... Enfin, bon, moi, je suis très fan. C'est pas seulement la concurrence, c'est le fait qu'ils ont des revenus très élevés. Et d'où viennent ces revenus ? Les revenus du football ont explosé depuis les années 90. Alors, pourquoi ils ont explosé ? Eh bien, simplement parce qu'ils ont payé... les chaînes de télé ont payé des droits télé extrêmement élevés pour pouvoir diffuser du foot à la télé. Et je vous rappelle la citation, ce n'est pas la passion ou les médias qui expliquent mon salaire. Bon, ben si, c'est la passion et les médias. C'est le fait que les chaînes de télé payent très cher le droit à la télé. Et voilà. Et en fait, on assiste en fait à ce qu'on appelle un phénomène de captation. C'est-à-dire que les revenus du football ont explosé depuis 20 ans. Et qui est-ce qui récupère l'essentiel de ces richesses supplémentaires qui ont été apportées par les droits télé, notamment ? Eh bien, c'est les footballeurs de très haut niveau comme Zlatan. Voilà.
Et la publicité pour la dernière radio que j'ai eu envie d'acheter, là, c'est Zlatan qui s'est mis dans la poche tout le bénéfice ?
Pas tout le bénéfice, parce qu'il faut quand même payer le publicitaire, il faut payer le journaliste, il faut payer, etc. Mais au bout du compte, celui qui va avoir la plus grande partie du gâteau, ça va être le footballeur. Et c'est comme ça dans le foot depuis 20 ans.
Donc c'est super, c'est le prolétaire, le travailleur qui reçoit l'essentiel de la force de production.
Voilà, ouais, mais alors c'est pas un prolétaire comme les autres.
Ah, d'accord.
Voilà. D'où la taxe à 75%. Et... En fait, ce qui est très sympathique avec Zlatan, c'est qu'en même temps, on pourrait se dire, bon, bah, on voit cette interview, on se dit, c'est un peu un gros con, quoi. Mais non, c'est quelqu'un qui est lucide, Zlatan. Et il explique dans une interview qu'en fait, il ne parle pas politique, parce qu'il ne comprend rien à la politique. On pourrait juste rajouter, il ne devrait pas trop parler d'économie, parce qu'il ne comprend pas grand-chose non plus. Mais tout ça, ça nous éloigne de la vraie question, la question fondamentale. Est-ce que l'euro, ça va rapporter des euros ? Est-ce que ça va rapporter des sous ? Alors, il y a une espèce de grande... campagne médiatique pour expliquer qu'en fait, oui, ça allait rapporter beaucoup. Et ça s'appuie sur une étude qui a été faite par le Centre du droit et de l'économie du sport et qui explique grosso modo que ça devrait rapporter à la France 1,2 milliard d'euros. Voilà, là, j'arrive au milliard. Et en fait, quand on décortique les chiffres qui sont donnés dans cette étude, c'est un petit peu plus compliqué que ça, un petit peu plus subtil. Grosso modo, l'UEFA qui organise la compétition, l'Euro UEFA 2016, a tablé sur des revenus d'environ 1,9 milliard d'euros. Et 1,2 milliard d'euros, ça correspond aux dépenses qu'on imagine que les personnes, les étrangers qui vont venir en France pour assister à l'euro, vont les dépenses qu'ils vont faire en France. Mais quand on donne ce chiffre, on ne tient pas compte des dépenses qui ont été faites par la France pour organiser l'euro, et en particulier les investissements dans les stades, qui montent, eux, à 1,7 milliard d'euros. Et donc, 1,7 moins 1,2, ça fait qu'en fait, on y est de notre poche, les pouvoirs publics, d'environ 500 millions, enfin, l'ensemble de la France, d'environ 500 millions d'euros. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est de l'argent perdu, parce que ces investissements, ils servent à quelque chose. On refait les stades, tout ça, ça peut avoir une certaine utilité. Mais en fait, se pose la question pour cet euro, comme pour n'importe quelle grande compétition sportive, c'est de savoir, est-ce que ce sont des investissements utiles ? D'un côté, c'est des investissements qui vont permettre d'avoir des stades de qualité. De l'autre côté, c'est des dettes qui vont être, elles, prises en charge par les pouvoirs publics. Alors, est-ce que c'est de la bonne dette ? Si on demande leur avis aux Grecs après les Jeux Olympiques à Athènes, a priori, c'est pas forcément de la bonne dette. Si on demande aux Canadiens, aux Québécois, après les Jeux Olympiques à Montréal en 76, qui ont fini de rembourser leurs dettes au début des années 2000, c'était pas forcément une bonne dette. Mais on ne sait jamais pour l'Euro UEFA 2016. Et puis, je voudrais quand même terminer sur quelque chose, un aspect plus sympathique du foot, et comme quoi les investissements dans le foot peuvent être utiles, c'est ce qu'on appelle le miracle islandais. L'Islande, c'est 330 000 habitants, Et l'Islande a réussi une performance unique, c'est de se qualifier pour l'euro en battant deux fois la Hollande qui fait 15 millions d'habitants. Alors comment l'Islande, un pays où il neige et il pleut la moitié de l'année, où on ne peut pas jouer au foot, a réussi à se qualifier pour l'euro? Eh bien, en fait, depuis une dizaine d'années, ils ont investi massivement dans des petits stades couverts qui permettent en fait aux jeunes Islandais de jouer au foot dans des conditions à peu près idéales. Et alors on peut se dire, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce que ça valait le coup de dépenser pour acheter des stades, etc.? Et le gouvernement islandais, il se défend de manière assez intelligente en disant, bah, en fait, grâce à ces stades, les jeunes en Islande font beaucoup plus de foot qu'avant, beaucoup plus de sport, et ils boivent moins. Il faut savoir que l'hiver islandais, qui dure très longtemps, est très déprimant, et pousse pas mal à la boisson. Et le fait d'avoir des stades couverts où on peut jouer au foot, on peut croire qu'on est en Espagne pendant quelques heures, ça a une certaine utilité. Donc vive l'Islande, et s'il y a une équipe à soutenir pendant 7 euros, moi je pense que c'est l'Islande. Voilà.
Belle chronique, Alex. Alors on enchaîne sur une chronique un peu plus classique, celle de Gaël sur l'actualité, évidemment, des traités de libre-échange.
Mais oui. Oui, il y a deux accords de libre-échange en préparation entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Le premier, c'est le CETA avec le Canada, qui est sur le point d'être signé, et le TAFTA avec les États-Unis, en cours de négociation. La philosophie générale des deux accords est la même. Il s'agit de faciliter les affaires des multinationales entre l'Europe et les États-Unis, en ouvrant les marchés et en réduisant les réglementations. Bref, les intérêts des milieux d'affaires passeraient avant la protection des droits sociaux, de la santé et de l'environnement. Les négociations sont secrètes et toutes les informations qui nous parviennent nous parviennent via des fuites. Alors, dernière fuite en date sur le TAFTA, elle est énorme, ce sont les TTIP leaks. TTIP, c'est la traduction en français de TAFTA.
Tu veux dire les fuites, c'est les fuites d'argent, c'est les fuites d'informations?
Des fuites d'informations. Ah. Donc ceux-là ont été révélés par Greenpeace, qui a sorti, donc c'est disponible sur le web, sur ttip-leaks.org. Greenpeace a sorti de nombreux documents de négociation du 13e round qui s'est tenu fin avril à New York. Alors on y apprend que les négociations piétinent pour plusieurs raisons, notamment les États-Unis ne veulent pas ouvrir leur marché public aux entreprises européennes. Et il demande de très fortes concessions sur le transfert des données numériques, ce qui est un sujet sensible. En revanche, les négociateurs sont sur la même longueur d'onde concernant l'harmonisation des normes et la reconnaissance mutuelle des normes. Alors concrètement, la reconnaissance mutuelle des normes, ça signifie que des entreprises états-uniennes pourraient exporter des produits en Europe sans suivre les normes européennes, contrairement aux entreprises européennes. Et donc pour rester concurrentielles, si les normes américaines sont moins exigeantes, les entreprises européennes, évidemment, feraient pression pour aligner nos normes sur celles des États-Unis. Et pour être encore plus efficaces contre les réglementations gênantes et les normes un peu trop strictes, les négociateurs états-uniens demandent que leurs experts participent au comité européen de normalisation, mais, je cite, sans garantie de réciprocité. Alors on a eu récemment un coup de menton de notre gouvernement, de gauche, je rappelle, qui a menacé de quitter la table des négociations pour protester contre le manque de réciprocité du TAFTA. Alors le message pour l'opinion, c'est que notre bon gouvernement de gauche défend les normes européennes contre les méchants américains. La vraie motivation, en fait, c'est que le gouvernement français aimerait bien que les États-Unis ouvrent le marché public aux multinationales françaises, qui sont des spécialistes des concessions de services publics, Vinci, Veolia, Bouygues, EDF, Engie, et que les États-Unis, dont les marchés publics sont beaucoup moins ouverts que les nôtres aux entreprises, bloquent toujours là-dessus. En fait, l'avenir de ces négociations dépend beaucoup de l'élection présidentielle américaine. Alors qu'Obama y était très favorable au TAFTA, Trump et Sanders y sont hostiles et Hillary Clinton est réservée. Donc la suite, on la saura un peu mieux après les élections américaines. L'accord avec le Canada, qui s'appelle le CETA, lui est beaucoup plus avancé. Les négociations sont terminées, le texte est presque prêt. Le Conseil européen doit se prononcer officiellement les 22 et 23 septembre. Et puis, il y aura une signature en grande pompe fin octobre lors d'un sommet euro-canadien à Bratislava. Ensuite, le CETA doit être ratifié par les parlements nationaux des États membres de l'Union, mais il peut déjà être mis en application provisoire dès sa signature à l'automne. Donc la mobilisation contre le CETA n'est pas finie. On peut encore faire pression sur nos députés qui peuvent être sensibles à deux aspects du traité. principalement l'abaissement des droits de douane sur les produits agricoles. On s'attend notamment, avec le CETA, à des importations massives de viande porcine et bovine qui vont encore fragiliser nos paysans. Le deuxième aspect, c'est l'application du CETA à la culture. Donc on se souvient, lors des négociations du GATT, il y a une vingtaine d'années, que les deux points principaux, enfin les deux points critiques, c'était l'agriculture et la culture. Là encore, la culture est un problème, puisque le CETA s'applique à la culture. En d'autres termes, à part l'audiovisuel, tout est libéralisable, et en particulier le domaine du livre. Et donc, en vertu du CETA, des marchands de livres sur Internet qui auraient une filiale au Canada pourraient attaquer la règle du prix unique du livre en disant que c'est une entrave à la libre concurrence. Et de cette manière, ils feraient sauter cette règle française qui permet la diversité dans le monde de l'édition et de la librairie. Alors, dans l'interpellation des élus qui sera nécessaire, les Belges ont déjà gagné des points. Le Parlement wallon et celui de la Fédération de Wallonie-Bruxelles ont voté une résolution qui va empêcher la Belgique de se prononcer en faveur du texte du CETA au Conseil européen. Vous pouvez vous aussi participer à cette action. Pour ça, il suffit d'aller sur le site web d'ATTAC où vous trouverez des documents et des guides pratiques. Et une nouvelle vague d'action est prévue cet automne.
Et on peut suivre l'exemple de Luxembourg où, la semaine dernière, les députés luxembourgeois qui ne se satisfaient pas, comme on vient d'expliquer, Gaël, de l'ensemble des négociations en cours, ont proposé des modifications. Bref, ils n'ont pas l'intention de ratifier le CETA. Ce n'est pas encore tout à fait un non définitif. Mais néanmoins, des députés d'un pays européen, s'ils le décidaient, pourraient carrément bloquer l'avenir du CETA. Alors, ils en sont pas loin.
La règle, l'unanimité n'est pas requise pour mettre en œuvre le CETA. Mais bon, s'il y a suffisamment de parlements nationaux qui refusent de ratifier, ça tombera à l'eau. Alors, une nouvelle toute fraîche sur les accords de libre-échange, ça concerne l'Afrique. Dans les négociations avec les États-Unis, les négociations avancent difficilement parce que à la fois les États-Unis et l'Europe sont forts. Mais quand on négocie avec les colonies, c'est beaucoup plus facile. Alors, jusqu'aux années 2000, les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Afrique étaient régies par les accords de Lomé et de Cotonou, qui accordaient aux pays africains un accès facilité au marché européen, tout en les laissant appliquer des droits de douane plus élevés sur leurs importations de produits européens. Et depuis les années 2000, l'Union européenne négocie avec ces pays des accords de libre-échange pour abaisser les droits de douane de l'Union européenne vers l'Afrique. Ce qui va priver les États africains de recettes, et surtout, ça peut complètement déstabiliser les producteurs locaux, ce qui arrive déjà dans le domaine de l'agriculture. Alors, pour tordre le bras aux pays africains, l'Union européenne fait des chantages à l'aide au développement pour accélérer la signature des nouveaux accords. Et hier, on a appris par une fuite que la Commission européenne discutait d'une nouvelle arme de chantage. Il s'agirait, dès octobre 2016, de rétablir des droits de douane sur les exportations de l'Afrique vers l'Europe. Alors, comme on n'est pas des salauds, ça ne concerne pas les pays qui sont classés comme PMA, pays les moins avancés. L'objectif de tout ça, donc, c'est de leur faire signer rapidement des accords de libre-échange qui permettraient à l'Europe d'exporter sans restriction vers l'Afrique. Là encore, des actions sont en cours. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site de l'AITEC. L'adresse est AITEC, donc AITEC.reseau-ipam.org.
Et voilà, on finit les chroniques d'actualité avec quelque chose d'un peu moins d'actualité. C'est la bande-son d'un film des années 70, Beautiful People, et on écoute Churchill Mistake.
Et vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, sur Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par l'équipe altermondialiste de l'association Attaque et du journal Le Piaf.
Et nous enchaînons sur une interview avec Jean-François. Bonjour Jean-François.
bonjour.
Alors, tu viens nous parler de la coopérative La Louve, qui va bientôt ouvrir ses portes dans le 19e, au 61 rue de la Goutte d'Or.
Alors, non, pas tout à fait.
Pas tout à fait.
La Louve va ouvrir au 116 rue des Poissonniers. Le 61 rue de la Goutte d'Or, c'est le local associatif qui nous sert à promouvoir...
Ça, c'est du travail de journaliste.
Il viendra un petit peu plus tard, qui va ouvrir en octobre 2016, donc d'ici peu de temps, d'ici 3 mois, ça vient très vite, parce que les travaux sont en train d'être réalisés, au 116 rue des Poissonniers, en fait, un peu plus haut dans le 18e.
Alors, cette coopérative, on a déjà reçu deux personnes de la Louve il y a quelques temps, mais tu peux nous rappeler son projet, et puis surtout, ce qui va changer pour tous les gens qui veulent consommer autrement.
Alors, le principe de la Louve, c'est en fait d'essayer de baisser les coûts des produits avec également des produits de meilleure qualité, enfin de meilleure qualité possible, grâce à une chose très simple, c'est de baisser la masse salariale en faisant participer l'ensemble des adhérents, en fait, des coopérateurs. Donc, pour adhérer, pour être coopérateur à la Louve, donc c'est évidemment c'est un circuit de membres, hein, c'est mais qui sont désormais assez nombreux. Il suffit en fait d'acheter une part à 100 euros, 10 euros pour les minima sociaux. Et on peut également, si c'est 100 euros, on peut également le répartir en plusieurs chèques au rond, si l'on veut. Et ensuite, de travailler 3 heures par mois. Et en échange de ça, en fait, nous, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire baisser les prix entre 20 et 40%, voire parfois beaucoup plus pour certains produits comme les épices, comme les thés, comme les fruits secs, ce genre de choses. Puis peut-être le vrac, on va réussir à baisser davantage sans doute, on l'espère. Et du coup, on travaille d'arrache-pied là-dessus. Donc pour l'instant, la coopérative, pour être un peu plus explicite, elle compte 2300 membres, un peu plus de 2300 membres, je crois. Donc c'est assez... ça marche bien, ça fonctionne bien. Mais on a un peu hâte de voir le supermarché ouvrir, en fait, dans le 18e au 116, rue des Poissonniers. Et pour l'instant, donc c'est un peu le branle-bas de combat en ce moment parce que 3 mois, ça va faire très court et du coup on cavale. On essaye de former les membres qui viennent s'inscrire au fur et à mesure pour qu'ils puissent être en capacité de faire les caisses, de faire de la manutention pour décharger les produits, pour réassortir les rayons, pour nettoyer s'il le faut également le supermarché, pour pas mal de petites tâches en fait diverses. Et voilà, donc il y a pas mal de boulot en fait.
Donc toutes les personnes qui veulent venir à la Louve quand elle ouvrira seront tous des personnes prêtes à s'engager comme tu viens de le décrire.
Voilà, prêtes à s'engager 3 heures toutes les 4 semaines. Ça c'est important. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est pas uniquement pour les prix évidemment que le projet s'est créé, il y a une dimension sociale qui est assez intéressante, qu'on voit d'ailleurs qui fonctionne déjà, hein, d'ores et déjà en fait, même si on n'est pas encore installé dans le quartier réellement, là on est en travaux. Mais les gens en fait se côtoient et parlent autour de la Louve assez régulièrement, et ça permet à des gens qui ont même qui font partie de cercles totalement différents, hein, de se rencontrer et puis de pouvoir partager autre chose qu'un boulot ou qu'un voisinage tout simplement. Et c'est plutôt agréable en fait, ça marche assez bien là-dessus. Donc on organise aussi des petites fêtes, des petits événements pour essayer de se faire rencontrer les gens, et ça fonctionne pour l'instant, faut le dire, assez bien. Là, on vient d'avoir une journée, on a monté également une petite épicerie dans le 61 rue de la Goutte d'Or pour essayer de commencer à faire des tests un petit peu sur les produits qu'on voudrait mettre en rayon et puis pour voir un petit peu, pour commencer à gérer la formation des différents membres. Et on se rend compte que c'est... les gens ressortent assez contents. Ça marche très bien. Là, on a fait une journée assez complexe et assez bonne. Et du coup, on était tous assez heureux, en fait. On est en train de boire une petite bière, d'ailleurs, avant de partir. Donc, c'est plutôt agréable.
On entend les sons d'une ambiance bien agréable derrière toi d'ailleurs.
Ouais, bon, on est plus que 4-5, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Je pense qu'il y a une bonne centaine ou 150 personnes qui ont dû passer aujourd'hui minimum. Près de 150 personnes, je crois. Donc ça commence à être assez cohérent tout ça. Ça commence à montrer des signes d'impatience également pour le gros supermarché. Et on espère avoir à peu près 3000 personnes si tout se passe bien pour le début du supermarché. Donc, qui est prévu, on va dire courant octobre, hein, pour pas te donner de date exacte, parce qu'on attend évidemment la fin des travaux, la conformité auprès de la préfecture. C'est des étapes qui sont importantes pour ouvrir un commerce de cet ordre-là, puisqu'on est un ERP de catégorie 3. On va accueillir pas mal de public quand même. Même si c'est pas un public, même si la Louve n'est pas ouverte à tous, elle est ouverte uniquement aux membres. Mais quand vous aurez 3000, peut-être 4000, peut-être 5000 plus tard personnes à gérer, en fait, ça fait un joyeux bordel, pour le dire franchement.
Et alors, ce joyeux bordel, pour le rejoindre, c'est facile, il suffit d'aller sur le site ou il faut
alors,
venir
sur,
site, sur place.
Ouais, exactement, vous pouvez vous rendre sur le site et puis regarder un petit peu les indications, suivre tout ça. Donc payer directement par virement, par carte bleue, par PayPal, ce genre de choses. Sinon, il y a une possibilité aussi, c'est de venir à régulièrement, en fait, dès qu'il y a des vides-greniers, des choses comme ça, des événements dans le 18e, il y a toujours un petit groupe de recrutement qui s'y trouve pour être là. Donc faut pas hésiter à aller le voir également. Donc ça peut être par chèque également, ça peut être... Et également, les personnes qui ont envie de nous rejoindre, elles peuvent aussi soit se rendre au Centre Barbara ou tous les 15 jours au Centre Barbara, le samedi, entre 13 et 17 heures. On a des permanences de réunions d'infos qui vous permettent d'être renseignés là-dessus, pour poser les questions nécessaires à la compréhension du projet. Et également, aux heures de vente, on a la possibilité de venir s'inscrire directement, même si là, on a moins d'informations, donc il vaut mieux prendre l'information avant. Mais vous avez la possibilité de venir vous inscrire donc le mercredi en fin d'après-midi, début de soirée, le vendredi en fin d'après-midi, début de soirée. Tout ça, c'est entre 17 et 20 heures. Au revoir. Et également le samedi de 10h à 15h, où on fait en fait des ventes. Alors, on ne pourra pas donner beaucoup d'informations à ces horaires-là, puisqu'on est un peu dans le rush et puis on vend un petit peu les produits de la Louve. Donc c'est plus pour des inscriptions directes, mais si vous voulez des informations, le mieux c'est de passer par internet ou alors aller aux réunions d'information au Centre Barbara, je pense que c'est préférable.
Tout à l'heure, tu as parlé de l'objectif d'avoir des prix raisonnables. Est-ce que dans ce projet, vous avez aussi une exigence à la fois sur la qualité des produits et sur les processus de fabrication, c'est-à-dire les circuits utilisés, la manière dont les produits sont fabriqués?
Oui, alors tout à fait. Alors bon, c'est vrai qu'on n'est pas, des ayatollahs du bio, c'est-à-dire qu'on a le but du jeu n'est pas de faire un supermarché bio. On se rend compte après que beaucoup des produits là sur l'épicerie, on a 90% des produits, je pense que c'est des produits bio, hein. Il n'y a pas, parce qu'on a justement comme exigence également le fait que ce soit des produits qui soient travaillés avec respect des conditions des gens avec qui les producteurs travaillent, par exemple. On n'a pas que des petits producteurs non plus. Évidemment, on va se servir de pour tout ce qui est épicerie, on va avoir beaucoup de distributeurs, mais on fait attention à tout ça. Donc c'est vrai que pour le distributeur, ce sera principalement des distributeurs bio, puisqu'ils nous garantissent d'une certaine façon par leur label une certaine sécurité. Après, on va évidemment se pencher sur beaucoup de produits de façon un petit peu individuelle. Et puis après, pour l'essentiel de ce qu'on aimerait nous promouvoir, c'est-à-dire les produits frais, donc le fromage, les légumes, les fruits et légumes, et puis les viandes, on va essayer d'avoir les meilleurs produits possibles. Donc évidemment, on essaye de chercher au mieux tout ce qu'on peut trouver de produits satisfaisants sur tous les points. Alors après, il faut aussi un petit peu calmer certaines ardeurs, parce que les gens rêveraient qu'on agisse uniquement avec des petits producteurs, ce qui n'est pas forcément possible. Il faut savoir que si on ouvre un supermarché, c'est aussi en travaillant sur la gestion des flux de camions. La distribution, c'est quand même une sacrée affaire. Et du coup, on essaye de faire au mieux. On essaye de trouver le meilleur rapport là-dessus pour éviter d'avoir... si on a 4000 produits, on ne pourra pas avoir 3-4000 livraisons de camions pour chaque produit parce qu'on s'adresserait à un petit producteur différent. C'est pas possible. Donc, on va essayer aussi de mutualiser certaines choses. On va essayer de s'adresser, par exemple, à des GAEC pour certains produits issus de l'agriculture. On va essayer de s'adresser à des distributeurs pour l'épicerie, pour la cosmétique, ça sera la cosmétique, les produits de nettoyage, etc., ça sera également ça. Donc on va essayer de grouper certains achats. Mais il faut admettre que pour l'instant, les produits frais qu'on a, on en est très très fiers, très heureux, parce que c'est vraiment des produits où on arrive à trouver de très très bons producteurs et de très très bons gars.
Et pour les produits agricoles, vous privilégiez les produits d'Île-de-France ou vous cherchez en dessous de la France?
Voilà, là par exemple aujourd'hui on faisait en petit essai comme ça une vente de fraises et une vente d'asperges. Donc on avait je sais plus combien, on avait il me semble que c'est 200 barquettes de fraises et puis quelque chose comme une quinzaine de cagettes, donc ça représente à peu près 20 cagettes, je crois, et à peu près une quinzaine de cagettes d'asperges vertes et violettes. Et en fait, elles sont parties en même pas une heure, donc on était assez impressionnés. Et tout ça provenait d'un producteur, en fait, Jean-Marc Coulon, qui se trouvait être un producteur du 72. Donc voilà, on était plutôt assez proche de Paris. On va essayer de faire au mieux là-dessus, mais on ne trouvera pas forcément tout ce qu'on veut, évidemment, dans la région parisienne, juste parce qu'en termes de distribution, c'est assez difficile de trouver, de pouvoir répondre à toutes les exigences d'un supermarché aussi important avec, avec la production d'Île-de-France. C'est quasiment impossible. Et également parce qu'on, parfois, bah, les producteurs sont, ont leur cahier de commande rempli. Donc on ne pourra pas forcément avoir tout ce qu'on veut en Île-de-France. Donc on ira chercher un peu plus loin. Voilà, on aura certainement de la viande, peut-être qui viendra de Mayenne. On aura peut-être, voilà, des fromages, évidemment, ils viendront un peu partout. Et puis on aura certainement d'autres produits, d'autres fruits et légumes qui viendront d'ailleurs en France, peut-être même de l'étranger, ça c'est possible aussi. Les circuits courts, ça ne veut pas forcément dire non plus que tout viendra de la proche région parisienne, quoi. C'est pas tout à fait ça non plus.
Là, on a beaucoup parlé de l'aspect, on va dire, qualité, écologie. Sur le côté social que t'as, sur lequel tu as un peu insisté au début, est-ce que tu as une idée des classes sociales auxquelles appartiennent les coopérateurs de la Louve?
Pour l'instant, je crois, hein, si je me trompe pas, alors je suis pas peut-être le plus à même d'en parler, mais d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a, on a pu relire un peu aux âgés, voir un peu comment ça se passait, on se rend compte que on a pas mal de minima sociaux justement qui nous rejoignent de plus en plus. Par rapport à la qualité des produits, pas forcément pour avoir le plus bas coût, parce que pour l'instant on est dans une petite épicerie, on peut pas avoir toutes les gammes de produits malheureusement. Également, on a une grande tranche, je crois, 25-35, et une grosse tranche de retraités également, et des gens qui viennent de beaucoup de milieux sociaux différents, faut l'admettre. On a beaucoup de gens qui ont pu nous dire qu'on n'aurait que des personnes un petit peu fortunées, c'est pas le cas. On a des gens qui nous disaient qu'on aurait que des retraités, c'est pas le cas non plus. Donc il y a qu'à voir les âgés, en fait, on se retrouve à des âgés à peu près une fois tous les deux mois, on va dire, deux, trois mois. Et à chaque fois aux âgés, on est assez surpris de voir la diversité des gens et le nombre de personnes qui viennent. Parce qu'on a facilement 300 personnes qui viennent aux âgés. Et à chaque fois. Donc c'est vrai que ça nous impressionne parce que les gens sont motivés, ils sont motivants du coup. Et c'est vrai qu'on a... Le supermarché prend corps avant même qu'il soit construit et physiquement existant. Et c'est très agréable. Donc on essaye de tous ensemble de le construire. C'est plutôt plaisant.
Eh ben, on te remercie Jean-François, ça donne vraiment envie de rejoindre ce superbe projet de la Louve.
Moi, je le souhaite parce que c'est vraiment un beau projet, c'est vraiment très chouette.
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On peut le dire, la Louve va rentrer dans Paris. Alors on va déjà écouter Serge Reggiani, les Louves sont entrés dans Paris.
Ah bah c'est bien, c'est un beau titre en plus.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Lélo, 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 lélo.
Bienvenue, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée aujourd'hui par l'équipe intermondialiste de l'association Attaque et les journalistes du PIAF.
Et nous donnons la parole à Marie.
Oui, alors il m'est arrivé un truc terrible en sortant du métro tout à l'heure. Ma chronique sur le tirage au sort, et c'est les expériences de démocratie participative dans le monde, a été mangée par un raton laveur.
Un raton laveur,
Pierre. Alors, ne me reste plus qu'à vous proposer... un happening artistique avec la lecture d'un petit morceau de prose qui s'appelle « Approche d'une ville mono-industrielle » et plus précisément son chapitre 1 qui s'intitule, et c'est fort à propos, « Où l'on passe à la radio ». Très angoissant en ce début de 21e siècle de ne pas connaître la profession de quelqu'un. Or, il se trouve qu'on ne connaissait pas le boulot d'Hippolyte Brunois. On savait avec certitude qu'il n'était pas chômeur, on savait aussi avec certitude qu'il était salarié, opprimé par un supérieur tyrannique et les contraintes de l'économie mondialisée, mais ces caractéristiques ne sont pas assez précises pour qu'on puisse déterminer ce que faisait Hippolyte Brunois. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons Hippolyte Brunois, sinon spécialiste, du moins passionné par les villes que l'on peut qualifier de mono-industrielles. il vient pour la première fois nous parler de cet étonnant phénomène que sont les villes mono-industrielles. Et pour lui poser des questions, voici un autre passionné, mais plutôt des jardins ornementaux. Je vous présente Jérôme Thomas. Hippolyte Brunois, d'où vous vient cette passion pour les villes mono-industrielles? Oui, d'où lui vient cette passion pour les villes mono-industrielles? Moi-même étant née dans les années 1950, les villes mono-industrielles ont toujours été fondées dans des lieux extrêmement précis que l'on peut appeler leur localisation géographique. En effet, il est de notoriété publique que c'est la plupart du temps en URSS et dans les pays d'Europe de l'Est que sont apparues ces villes. Mais continuez. Eh bien, elles se sont construites au fur et à mesure de l'édification de leurs différentes composantes urbanistiques telles que des bâtiments, des édifices, des immeubles. L'intervention des différents corps de métier de ce domaine que l'on nomme le BTP est nécessaire à l'érection d'une ville mono-industrielle. Les villes mono-industrielles ont la particularité d'être à la fois mono et industrielle, et c'est assez spécifique. Souvent, lorsqu'il se rend au travail, ce qui lui arrive 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, qu'il est en costume cravate, qu'il prend le train de 8h12 et qu'il lit la revue spécialisée Mono-Indus, Hippolyte Brunois ressemble à s'y tromper aux autres employés, eux aussi en route pour le travail et eux aussi vêtus d'un costume cravate. Mono-Indus, une revue à laquelle vous collaborez souvent, si je ne me trompe, avec des articles comme « L'Est et le néant », qui est un essai théorique et pratique sur le mono-industrialisme, « Être ou ne pas être mono-industriel », dans lequel vous introduisez et défendez le concept de mono-industrieux, et dans la rubrique « Parlez-vous de nous », vous avez proposé un témoignage intitulé « Ma mono-industrialité et moi » ou « Le triomphe de l'activité unique ». Effectivement, je suis un contributeur régulier de la revue Mono-Indus. Nos informations sur la vie privée d'Hippolyte Brunois se présentent comme suit. Il vit chez sa vieille mère, entre un chien aveugle et la photo encadrée de son défunt papa. À noter cependant, Hippolyte Brunois a gardé de sa prime enfance le souci aigu de son intégrité corporelle. Allez savoir ce que cela recouvre comme réalité. Cependant, un débat existe au sein de la revue qui divise les lecteurs autant que les penseurs de la question. Où en sont aujourd'hui les villes mono-industrielles? Certains parlent même de post-mono-industrialisme. Qu'en dites-vous, monsieur Brunois? Comment vous situez-vous dans ces discussions souvent assez virulentes? Oh, sujet épineux, je ne voudrais pas ennuyer vos auditeurs avec des questions si pointues. En résumé, Hippolyte Brunois a 55 ans. Au cours des 55 dernières années, il a subi un long processus d'évolution qui l'a rendu apte à marcher, parler, écrire, compter et même conduire une voiture. Au cours des 55 dernières années, donc, il a vu son corps et son esprit se transformer pour finalement se stabiliser dans la configuration parfaite à sa réalisation en tant qu'être humain adulte. C'est aujourd'hui et maintenant qu'Hippolyte Brunois prend conscience de cette dominée objective. Vous êtes, de toute évidence, un éminent connaisseur de ce thème éminemment intéressant. Mais le fait le plus étonnant, et ceux qui nous écoutent ne manqueront pas de s'en étonner, reste que vous, Hippolyte Brunois, n'avez jamais vu une ville mono-industrielle de vos propres yeux. Voilà, vous accuserez les ratons laveurs pour cette chronique.
C'était un petit peu mono-industrieux quand même, hein, disons-le. Alors, on enchaîne sur quelque chose d'un peu plus d'actualité, puisque c'est un scoop que va nous dévoiler Magali.
Ça va être dur d'enchaîner. C'est un peu moins joli comme histoire. Alors, je voulais vous parler, moi, de Bébé, de Bruno Bézard, qui est l'ex-directeur général du Trésor et qui vient d'être décoré lundi dernier, c'est tout récent, des insignes d'officier de l'Ordre du Mérite par le ministre des Finances, Michel Sapin. Alors jusque-là, on se dit, bon, bah, rien d'anormal, il récompense une carrière, tout va bien. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur la destination de M. Bézard, son nouveau job, quoi. En effet, il va rejoindre un fonds financier chinois qui s'appelle Cathay Capital et qui travaille avec de l'argent public français. Argent qui vient d'une ex-filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous passe les détails, mais cette filiale est maintenant une filiale de BPI France, la banque publique d'investissement dont l'État est actionnaire à 50%. Bref, tout ça pour dire qu'il y a de l'argent public là-dedans. Et M. Bézard, en sa qualité de directeur général du Trésor, était membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Et aujourd'hui, la direction générale du Trésor est étroitement impliquée dans la gestion de cette banque publique d'investissement. Ça sent le conflit d'intérêts. Mais le plus beau, c'est quand même que le fonds dispose d'une implantation aux îles Caïmans, c'est-à-dire l'un des paradis fiscaux parmi les plus opaques au monde. Alors, si on résume, le directeur général du Trésor, qui était aussi directeur général des finances publiques entre 2012 et 2014, donc à ce titre en charge de la lutte contre la fraude fiscale, se barre dans un fonds financier qui a une implantation dans un paradis fiscal. Et ce, pile au moment où le projet de loi anticorruption du gouvernement est examiné à l'Assemblée. Pas mal. Alors, évidemment, à l'époque où le décret de la décoration de M. Bézard a été publié, en novembre 2015, Michel Sapin n'était pas, était loin de se douter que le directeur général du Trésor allait partir pour travailler dans un fonds chinois implanté dans un paradis fiscal. Mais au moment de la décoration, il le savait déjà depuis quelques temps. Il n'a pas pour autant jugé opportun d'annuler la cérémonie. Évidemment, comme Bruno Bézard fait l'objet de vives critiques depuis l'annonce de son départ, le discours du ministre pour le pot de départ n'a pas dû être évident. Du coup, manifestement, selon les sources de Mediapart, le ministre a tenté de prendre sa défense en valorisant les allers-retours entre le public et le privé qui permettent de décloisonner ces deux mondes et enrichir les visions des uns et des autres. Ah, les fameux allers-retours, piquer les bonnes pratiques des uns et des autres pour s'améliorer collectivement, introduire les méthodes du management du privé dans la fonction publique pour peu à peu montrer à quel point le statut de fonctionnaire est en décalage avec le monde moderne, celui de la performance et du salarié jetable. Bref, je m'égare. Bien sûr, ces allers-retours sont la source de pas mal de mots, nommés conflits d'intérêts, qui constituent une porte d'entrée toute trouvée pour les lobbies en tout genre, au détriment de cette belle et riche idée qu'est l'intérêt général. Mais, me direz-vous, il y a la commission de déontologie. Bien sûr.
Mais, et la commission,
et la commission de déontologie, garde-fou pour éviter les conflits d'intérêts chez les hauts fonctionnaires, n'est-ce pas? Sauf que dans le cas Bézard, la commission, elle n'a pas vu de problème. Pourtant, le code pénal interdit sous 3 ans aux hauts fonctionnaires de passer dans une entreprise privée sur laquelle ils ont exercé l'autorité publique. La commission doit aussi vérifier que le cas qu'on lui propose ne contrevient pas à la neutralité du service public. Sur ces deux points, il y a quand même un doute. Alors, que dire? Je ne sais même pas comment conclure, pour tout vous dire. Mais on peut dire en tout cas que le cas Bézard est une fois de plus un cas qui discrédite un peu plus cette commission de déontologie.
Et ça nous fait penser à un certain ministre aussi, un gars qui en parle souvent dans les journaux, là, Macron, qui s'amuse à faire ça dans l'autre sens, mais quand il va quitter Bercy, la commission de déontologie va lui dire oui, non, mais, pour aller...
Je pense qu'elle sera beaucoup plus ferme après cette belle leçon du cas Bézard.
Donc la jurisprudence va empêcher de nous faire baiser. Alors, une petite annonce sur un sujet dont on a beaucoup parlé, qui est donc Notre-Dame-des-Landes, vu que le 26 juin prochain, le gouvernement va organiser, vous l'avez entendu, Hollande l'avait promis, un référendum local sur le projet d'aéroport qui va devoir avoir lieu, donc à Notre-Dame-des-Landes. Ça fait une trentaine d'années qu'on parle de ce projet et beaucoup de gens sont contre. Or, le référendum va être excessivement local. Il va avoir lieu uniquement dans le département de Loire-Atlantique. Et pourquoi? Finalement, quand on regarde, seuls les résidents de Loire-Atlantique apportent un soutien modéré au projet. Même les autres départements de la région qui l'entourent, les Pays de la Loire et les régions Bretagne ou Poitou-Charentes, sont plutôt opposés au projet dans le passé. Et puis, les Français, en général, semblent plutôt contre dans cette optique. Pourquoi? Parce qu'on a entendu parler, il y a des conséquences climatiques à une échelle forte, à imaginer davantage d'avions peut-être, mais il y a aussi et surtout une imperméabilisation de plus de 1650 hectares de terres agricoles dans des zones humides dont on mesure aujourd'hui l'importance dans la régulation des crues et des inondations. En plus, le projet a été validé, peut-être, mais il a été beaucoup critiqué par de nombreux spécialistes, il y a même eu beaucoup de rapports, et un dernièrement, contre, ou en partie, contre. Alors, si vous voulez vous aussi participer à cette votation, à voter pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, il y a une votation citoyenne. Vous pouvez aller sur le site Votation citoyenne, tout court, et vous trouverez la possibilité de donner votre avis. Si vous voulez participer davantage, il y a différents rassemblements prévus dans la quinzaine à venir. Vous pouvez aussi participer au projet financièrement pour un don ponctuel de 25 euros, par exemple, pour, sachant que vous pouvez avoir un réduit fiscal sur vos impôts. Vous avez aussi un livre, deux autocollants et bien entendu le grand plaisir d'avoir travaillé à désobéir aux grands projets inutiles. Un autre petit point d'actualité, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la Gazette Debout, le journal Nuit Debout, à l'occasion en partenariat très amical avec Basta. C'est la liste de tous les blocages et les grèves qu'il y a eu le jeudi 9 juin 2016, c'est-à-dire hier. Alors avec l'appel évidemment de l'intersyndicale CGT, FO, Sud, Solitaire, UNEF, Fidel, UNEL, qui est contre la loi travail. Et on entend dans les médias, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu régulièrement que la grève s'essouffle, etc. Enfin, quand on lit la liste, on n'a pas cette même impression. À Paris, les trois déchetteries de la région parisienne renouvellent leur grève jusqu'à mardi 14 juin. Une grève des ordures qui commence à se faire sentir. Le blocage de Rungis, hier, 3h30, blocage des trois péages d'accès à Rungis, barricade des feux de poubelle et autres palettes, à 5h30, investissement de Rungis, à 6h30, manifestation sur la 7. À Nantes, deux rassemblements syndicaux, à Saint-Nazaire, envahissement du périphérique, à Toulouse, la nuit debout, à porter un soutien aux cheminots en investissant la gare. La grève des facteurs SNCF au palais de justice, toujours à Toulouse. En Normandie, à Rouen, le pont Flaubert a été bloqué à l'aube. Au Havre, les syndicats avaient prévu une manifestation nationale avec 35 000 participants. Bon, la préfecture n'en compte que 5 500. La CGT évoquait 1 700 manifestants à Rouen. La police 600. À Caen, la manifestation a été déroulée dans le calme avec une centaine de personnes. À Cherbourg, une grande mobilisation ce jeudi avec à 6 heures des exercices bloqués. À Saint-Lô, 150 manifestants devant la mairie. À Rennes, 1 500 personnes ont défilé. À Brest, blocage du port de commerce. À Ouistreham, le port d'agglomération de Caen, bloqué tous les ferries pour l'Angleterre. À Annecy, blocage du dépôt pétrolier. En Corse, le blocage par CGT des dépôts de carburant dans les deux villes d'Ajaccio et de Bastia. À Donge, une raffinerie totale bloquée. Dans le Puy-de-Dôme, des actions coup-point en Auvergne contre les lois travail avec énergie CGT 63 qui ont basculé en heure creuse 200 000 abonnés d'électricité dans le Puy-de-Dôme. Et blocage du bureau du MEDEF. Blocage de l'incinérateur de Clermont, un autre grand projet inutile. À Marseille, le CGT Marin a développé un préavis de grève de 48 heures. Il y avait aussi ce jeudi une journée d'action nationale des retraités avec un départ parisien. On est bien entendu dans une grève SNCF illimitée et une grève illimitée de la RATP. À part ça, la grève s'essouffle. Alors si vous voulez poursuivre le débat, eh bien c'est le moment de faire l'agenda.
Oui, d'ailleurs n'oubliez pas les Nuits Debout, Place de la République et un peu partout en France. Allez jeter un coup d'œil sur demosphère.eu.
Il y a quelques jours, McDonald's a été perquisitionné dans le cadre d'une plainte pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée déposée par les élus du syndicat présent au comité d'entreprise régionale en compagnie de leur avocate Eva Joly. Depuis, il y a une vingtaine de blocages dans les McDo en Île-de-France depuis le mois de mars. Ces actions poursuivent deux objectifs, la relocalisation des profits situés dans les paradis fiscaux et le retrait du projet de loi travail. Donc la dernière action en date, c'était aujourd'hui même à 17h sur le Champ de Mars, devant le McDo provisoire, donc sur le site de la Fanzone Euro 2016.
Alors, samedi 11 juin à 15h, donc demain, rencontre avec Serge Latouche sur la décroissance. Et ça a lieu à la ferme du Buisson, allée de la ferme à Noisiel, dans le 77, à 15h, le samedi 11 juin.
Un atelier anti-pub organisé par l'atelier anti-pub des Nuits Debout aura lieu samedi 11 juin, donc demain à 16h, c'est la place de la République. Il y aura un rendez-vous où on amènera des affiches pour s'amuser à les détourner et à les coller sur les abribus.
Le collectif Ciné-Lutte et la radio associative Fréquence Paris Pluriel organisent une série de projections de films dans le cadre du mouvement d'opposition à la loi travail. Et le thème de la soirée du lundi 13 juin sera le droit au logement. C'est à 20h au Centre international de culture populaire, 21 Terre, rue Voltaire à Paris.
Prochaine manifestation contre la loi travail, mardi 14 juin à 13h. Journée de grève interprofessionnelle, les infos sur Démosphère. Pensez à accueillir les militants venus de partout.
Et une projection débat le mercredi 15 juin à 20h au cinéma La Clé. Le débat porte sur l'intérêt général et moi. C'est un documentaire de Sophie Maitrich et Julien Milanès.
Alors, c'est pas un scoop. Le FN se nourrit de notre inaction. En fait, c'est un appel à un rassemblement samedi 18 et 25 juin 2016 à 16h, deux places du Colonel Fabien, métro Colonel Fabien. Et c'est une possibilité de se mobiliser contre la montée du Front National.
L'université d'attaque, cette année, a lieu du 6 au 9 juillet 2016. Elle est co-organisée par le CRID et elle se situera à Besançon.
Et l'Alter Village 2016 aura lieu dans l'Indre, sur la commune de Pellevoisin, du jeudi 14 au jeudi 21 juillet. C'est une manifestation organisée par Attaque qui vise à montrer les alternatives. Un autre monde est possible. C'est dans un village éphémère, autogéré et participatif.
Et le festival La Belle Rouge, comme chaque été, de la compagnie Jolimum, aura lieu du 29 au 31 juillet, comme d'habitude, en Auvergne, à Saint-Amand-Roche-Savine, des concerts, des spectacles, des films, des ateliers, pour tout renseignement sur le site de la compagnie Jolimum. Ce qui termine notre émission, on dit merci aux intervenants, donc à Jean-François Delalouve qui nous a joint par téléphone, Alex, Magali, Marie, Gaël et Ludo et Jean-Yves à la technique. On termine en écoutant une chanteuse taïwanaise d'origine de Lille, Iliao Kaolo Dreams.